La trahison ne paye pas. Confession inédite recueillie par Nicole Morand. Jacques, en ouvrant la porte avec précaution pour sortir de la chambre à coucher, buta contre une console en pierre. Au bruit, je sursautai. « Oh, chérie, s'exclama-t-il, je suis désolé de t'avoir réveillée. J'ai fait tellement attention, pourtant. » Je mis à rire. La maladresse de mon mari n'avait d'égal que sa gentillesse. Chaque fois qu'il avait à pratiquer une opération tôt le matin, il arrivait à interrompre mon sommeil de la même façon. « Quelle heure est-il » questionnai-je. « 6 heures, mon pauvre petit trésor. J'espère que tu vas te rendormir. »« J'ai bien peur que non, mais c'est sans importance. » Il s'approcha, embrassa mes cheveux embroussaillés, mes yeux à peine ouverts, mon visage barbouillé de sommeil. « Veux-tu que je t'apporte ton déjeuner ?»« Volontiers, si cela ne te retarde pas trop. » Quelques minutes plus tard, il déposait un plateau sur mes genoux. Le café était tiède, les biscottes un peu molles, et il n'avait pas trouvé le beurre. Mais il était là, lui, avec ce regard émerveillé qu'il a toujours pour moi. J'eus envie de lui demander s'il était heureux. Mais à quoi bon tenter le sort? Depuis 7 ans que nous étions mariés, ne donnions-nous pas à tous l'impression d'un couple parfaitement uni? J'avais 25 ans et Jacques 50. Cette différence d'âge ne nous gênait nullement. C'est volontairement que je m'étais choisi un mari solide, sûr, expérimenté. J'avais trop vu autour de moi des ménages malheureux pour ne pas mettre tous les atouts dans mon jeu. La droiture, la franchise et la douceur du docteur Linard m'avaient séduite. Nous nous étions connus de la façon la plus banale du monde. Jeune fille, j'eus une crise foudroyante d'appendicite. On me conduisit dans une clinique. Le chirurgien qui m'opéra avec une grande maîtrise s'occupa parfaitement de moi, car mon cas était assez complexe. Nous devînmes amis. Tous les jours, il passait presque 1 heure à mon chevet, bavardant et riant. Certains après-midi, en se levant pour prendre congé, il renversa un vase de fleurs posé sur ma table de chevet. Je fus enfoui sous les rosetés et baigné d'eau, tandis qu'il tentait de réparer le mal en m'épongeant. Il arrêta soudain son geste. Ses mains s'apesantirent sur mes épaules. Son regard chercha le mien. Puis il se sauva comme un fou. Une infirmière arriva quelques instants après. Le docteur caissier à droite lorsqu'il opère est terriblement gauche dans la vie habituelle, et il avait l'air absolument navré. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il renverse quelque objet sur un malade. Je souris sans répondre. Je venais de comprendre que le docteur Linard était amoureux. Je m'interrogeais longuement. L'aimais-je? Pas encore. Mais mon cœur était prêt à s'ouvrir. Il serait un compagnon sensible et loyal. Je n'avais à prendre conseil de personne. Mon père et ma mère avaient divorcé et tous deux s'étaient remariés. De la vie familiale, je n'avais connu que des scènes, des larmes, des mots échangés entre deux époux pourtant bien assortis. Ma mère frivole et coquette, mon père joueur et léger. On m'a mis en pension pour se débarrasser de moi. Je n'y fus du reste nullement malheureuse. L'école était sélecte et accueillait de partout des jeunes étrangers ravis de s'initier aux manières françaises. Mes compagnes anglaises m'avaient donné un peu leur humour. Les Américaines, leur esprit sportif, les Péruviennes, l'amour du fardiente et les Suédois, cette réserve attirante dont elles ont le secret. Je passais pour être sage et studieuse. En réalité, j'évitais les luttes inutiles. « À 18 ans, m'avait dit mon père, je te ferai une pension, et tu pourras t'installer où tu voudras pour continuer tes études. Puisque la peinture t'attire, pourquoi ne pas tenter ta chance ?» Je n'eus pas le temps de faire l'apprentissage de cette liberté qui m'était offerte. Quelques jours avant de quitter la pension, j'eus une crise d'appendicite et 1 mois plus tard, mon chirurgien me demandait en mariage. Qu'il fût gauche et charmant. C'était le lendemain de mon arrosage. Il vint me voir en tenant, à la façon d'un explosif, une gerbe de rose. « C'est pour me faire pardonner ma maladresse, » m'expliqua-t-il. Ce n'était pas la peine, car j'osais volontiers pardonner. Il était devant moi, embarrassé. « Vous ne vous asseyez pas aujourd'hui ? » demandai-je. « Non, je vais vous parler d'une chose très grave. Je me suis aperçu que je vous aimais. » Je souris, sans répondre. Il s'enhardit alors. « Je suis bien plus âgé que vous. Je ne crois pas que vous puissiez m'aimer. Pourquoi pas ? J'ai tant de confiance en vous et votre présence m'est si chère. Ce doit être le début de l'amour. » Il avait l'air d'un enfant auquel vient de promettre la lune. « Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour moi de rencontrer un homme comme vous. Je voudrais tant être heureuse. » dis-je avec fougue. Il prit ma main et la pressa si fort que j'eus du mal à retenir un cri de douleur. « Quand nous marions-nous » interrogea-t-il. « Dans un mois, dès que je serai complètement rétabli, si vous voulez. Si je veux. » Il me prit dans ses bras et m'embrassa doucement. « Je sais que de notre existence nous ferons du bonheur, » chuchotai-je. « Merci, petite Annie, de croire en moi. Il n'y a pas un de mes jours où j'oublierai de remercier le ciel de vous avoir envoyé sur ma route. » Ce furent là nos fiançailles. Mes parents se déclaraient ravis de ma décision. Ils étaient fort contents, en somme, d'être débarrassés de moi. Cette année s'était écoulée depuis ce jour. Jacques était toujours si épris, et j'étais heureuse près de lui. Brutale et tragique, la déclaration de guerre était survenue. Mon mari était resté à la tête d'un service hospitalier et continuait en même temps à diriger sa clinique. Nous étions au début de 1940. De part et d'autre, les armées piétinaient. C'était la drôle de guerre. À Paris, plein d'uniformes, on s'amusait. Jacques avait beaucoup d'amis et désirait me voir me distraire. Aussi sortions-nous très souvent. Ce matin donc, en reprenant le plateau du petit-déjeuner, il me rappela que le soir même, nous devions rejoindre un de ses confrères et sa femme dans une nouvelle boîte de Montmartre, le Cacatoès. « Ne veux-tu pas que nous restions pour une fois à la maison ?» demandai-je. « Tu t'es levé si tôt ?»« Non, non, je n'ai pas encore l'âge des pantoufles. » Je n'avais pas l'habitude de le contrarier. Du reste, il ne me déplaisait pas d'entendre un bon orchestre et de danser dans ce Paris un peu fou. Je cédais gentiment, comme tu voudras, mon amour. Jacques se pencha sur moi, effleura mes cheveux et conseilla. « Dors maintenant, Annie. Trop belle ce soir. Je suis si fier de toi. » Je fermai les yeux et j'obéis. Il est facile de s'endormir lorsqu'on a le cœur plein de tendresse, lorsque la vie est douce. Il est facile aussi de croire que le bonheur est éternel. La journée passa rapidement, occupée par ces riens qui meublent si facilement la vie d'une femme oisive. Avant le dîner, je mis très longtemps à me préparer pour le soir. Lorsque je me regardais dans le grand miroir, je fus satisfaite de moi. J'avais gardé mon air de jeune fille tendre et un peu grave. Sous mes cheveux très noirs, tombant en grappe sur mes épaules, mon visage semblait plus mat et mes yeux immenses. Ma bouche, le plus souvent rieuse, était creusée au coin de fossettes. J'étais fier aussi de mon cou très dégagé, de mes épaules de sportive et fier aussi de mon corps mince et souple. Dans ma longue robe d'un bleu de nuit, j'avais l'air d'une adolescente déguisée en dame. À peine terminai-je mon examen que la sonnerie du téléphone retentit. Mon mari était à l'appareil. « Je suis désolé, Annie, mais je suis retenu à la clinique jusqu'au matin par un malade en danger. »« Dans ce cas, je reste à la maison. » Il protesta. « Pas du tout. Les Jourdans t'attendent au Cacatoès à 11 heures. La table est retenue à mon nom. Va sans moi. » Déjà, il avait raccroché. J'étais ennuyé. Sortir sans lui ne me causait aucun plaisir. Je dînais seul et à 11 heures, une cape de fourrure sur mon épaule, je pris une voiture. J'arrivai quelques instants plus tard dans le cabaret bondé. Un maître d'hôtel me conduisit à ma table. Mes amis n'étaient pas encore là. Je regardai autour de moi. Sur l'estrade, un orchestre noir scandait un blues nostalgique et rythmé. Des couples, pressés les uns contre les autres, dansaient, les yeux perdus dans un rêve tendre. Non loin de moi, une bande d'aviateurs menait grand tapage. Toutes les femmes leur souriaient. Demain, ils iraient vers la mort avec la même audace narquoise et tranquille. De temps à autre, je consultai ma montre. Les Jourdans ne venaient toujours pas. On m'invita plusieurs fois à danser, mais je refusais. J'étais sans impatience, je m'amusais même. Il était si rare que je fus seul quelque part, que j'y trouvais un certain charme. Tout à coup, je relevai la tête. Je sentais un regard fixé sur moi, aigu et inquiet. Non loin se tenait un jeune homme en uniforme de lieutenant. Il ne me quittait pas des yeux. Je lus dans ses prunelles une admiration éperdue et triste. Il était seul, comme moi. Attendait-il quelqu'un? Non, sans doute, car il n'avait aucun de ces gestes qui dénotent l'impatience d'un rendez-vous manqué. Il me sourit timidement, et je lui rendis son sourire. Son air romantique, comme absent, m'intriguait en ce lieu. Il était grand, point beau comme on l'entend, mais viril et sympathique. J'aurais voulu, je ne sais pourquoi, qu'il fût de mes amis. Il se leva enfin et vint s'incliner devant moi. « Je ne sais, mademoiselle, si vous désirez danser. N'en faites qu'à votre guise. Et renvoyez-moi si mon invitation vous déplaît. Pas du tout. » Ma réponse avait jailli presque malgré moi. Il m'enlaça et me guida sur la piste étroite. « C'est ma première permission, » me dit-il. « J'en attendais beaucoup de joie. Et vous êtes déçu ?»«
Non, pas tout à fait, puisque vous êtes là. » »«
Je pense que vous attendez quelqu'un. » »«
Oui, des amis. » »«
Je n'attends personne. » La voix était grave et profonde.
« Vous n'êtes pas de Paris ?» questionnai-je.
« Non, j'ai toujours vécu en Afrique du Nord. Mes parents sont colons. Je connais mal la France. Et la vie parisienne m'effraie un peu. On n'a pas l'air de penser à la guerre. »
« On y pense, mais on fait tout pour l'oublier, voyez-vous.
Je comprends. » L'orchestre terminait sur une note radoucie. Il me ramena à ma table. « Merci, mademoiselle. Vous serez, par votre gentillesse, le seul souvenir agréable que j'emporterai demain.
Vous repartez ?»«
Oui, sur le front, dans l'Est. Je ne sais quand je reviendrai. Je ne sais même pas si je reviendrai jamais. »«
Vous reviendrez, je vous le promets. » »«
Merci, j'en accepte l'augure. »
« Me permettrez-vous de vous inviter encore ?»«
Tout de suite, si vous voulez. »«
Que vous êtes chic. »
Minuit sonna. Nous étions toujours au bras l'un de l'autre. Notre intimité avait fait de grands progrès. Gilles se confiait. Je sentais qu'il lui était agréable de parler. Ma présence était une consolation à sa solitude.
« Qu'il est tard, » dis-je effrayé.
« Mes amis ne viendront certainement pas. Il faut que je parte. »
Gilles eut l'air déçu.
« Oh, on vous attend sans doute. »
« Non, » répondis-je avec un rien d'hésitation.
Il me prit par le bras pour me ramener à mon siège car le tango était fini. Sa voix se fit suppliante.
« Si vous vouliez, je pourrais être un homme comblé. »«
Je ne vous comprends pas, » dis-je avec hauteur.
« Vous vous méprenez sur mes intentions.
J'ai compris que vous êtes d'une autre classe que les femmes seules qu'on peut rencontrer dans des boîtes comme ici. Mais donnez-moi les heures qui vous restent. « Nous irons dans une autre boîte, tous les deux. Je serai si fier de vous accompagner. Faites-moi ce cadeau, je vous en prie. »
J'hésitais. L'image de Jacques passa devant mes yeux. Que me conseillerait-il?
J'étais sûr qu'il comprendrait mon amitié pour le soldat isolé.
Que risquais-je?
Rien.
Et je ne lui enlèverais rien, lui, puisqu'il était occupé jusqu'au matin.
« Alors ?» questionna mon compagnon.
« Alors j'accepte.
Mais à 5 heures, je m'évanouirai. Comme une fée.
Mais vous aurez fait un heureux. »
Je ne sais plus ce que fut cette nuit rieuse et amicale. Je ne sais plus dans combien de cabarets nous entrâmes. Je ne sais combien de bouteilles de champagne furent ouvertes et bues. Nous étions un peu ivres. Notre jeunesse nous montait la tête aussi sûrement que le vin blond et pétillant.
« Jouons à être amoureux, »
avait proposé Gilles. « Je ne sais pas jouer à ce jeu. » Gilles se moquait doucement.
« J'ai peur que ce ne soit très difficile.
Ne voulez-vous pas que je vous l'apprenne ?
Ce n'est pas difficile, »
affirma-t-il. Et je suis certain que vous êtes étonnamment doué. D'abord, il suffit de nous rappeler par nos prénoms comme si nous nous connaissions depuis longtemps.
Bien, Gilles.
Vous voyez, j'ai commencé. Je continue.
Vous êtes belle, Annie.
Belle comme une fiancée. Belle comme la jeune fille dont rêvent les guerriers dans leur camp. Savez-vous que je n'ai jamais aimé encore?
Sans doute.
M'attendiez-vous?
Me moquais-je.
C'est vrai. Je ne le savais pas, mais depuis que mes yeux se sont posés sur vous, mon cœur est plein de cette certitude.
« Peux-tu aimer si vite ?»«
Pour mourir, il faut peu de temps, aussi. »
Je pris sa main dans la mienne et grondai doucement.
« Gilles, ne parlez pas toujours de cette chose.
Je n'y peux rien.
J'ai en moi la conviction profonde que je serai tué pendant cette guerre. C'est absurde. Avec une idée pareille, vous êtes d'avance invaincu.
Et les femmes n'aiment que les vainqueurs, n'est-ce pas ?»«
Je ne sais pas, je ne crois pas. »
Moi, justement, je l'aimais d'être faible et de ne pas me cacher sa faiblesse.
J'avais toujours été gâté par la vie et par mon mari. La souffrance m'intimidait, même celle des autres.
Gilles, dansons encore.
Dansons, Annie.
Faisons qu'il vous plaît.
Je voudrais exaucer tous vos voeux.
Moi aussi.
Si j'avais une baguette magique, vos souhaits se réaliseraient à l'instant même.
Il me serra plus fort contre lui.
Je n'en ai qu'un.
Que tout ceci ne soit pas un jeu.
Que j'ai le droit de vous aimer. Et que vous répondiez à ma tendresse.
Chut.
Je n'ai pas le temps. Je pars demain. Vous ne m'aimerez jamais.
Vous êtes très proche de moi.
Pour combien de temps?
Je suis resté.
Allez-vous me le faire regretter par hasard?
Non, non, Annie. Pardonnez-moi.
La nuit finissait. Tout était baigné de mélancolie. Les couples un à un s'éloignaient. Nous entendions l'orchestre argentin comme en rêve.
Ne vous endormez pas, supplia Gilles. Je vous possède pour si peu de temps.
Allons-nous promener alors? Dans la rue, j'eus froid soudain et me mis à frissonner. D'un geste tendre, le jeune lieutenant m'entoura de son bras. Nous nous taisions. Nos chaleurs se mêlaient. je ne pensais plus à Jacques. J'étais, pour cet instant, la jeune fille dont Gilles s'était épris. Jouait-il encore le jeu qu'il avait inventé? Sa main se faisait plus insistante. Mon épaule, là où cette main se crispait, était brûlante. Tout à coup, il gémit. « Annie, tout ceci est trop doux et trop terrible. Il vaut mieux que nous le quittions tout de suite. Du reste, me voici arrivé. J'habite cet hôtel, sur la droite. Je fus vexé malgré moi. Quoi? Je lui sacrifiais ma nuit. J'oubliais tout pour lui. Je jouais le jeu qu'il avait inventé, et avant que la partie ne fût finie, il essayait de tricher. Eh bien, puisqu'il voulait rentrer, je ne l'en empêcherai pas. » Je fis un signe à un taxi qui vint se ranger sur le bord du trottoir. Puis, j'eus un geste d'adieu et lancai. « Au revoir, Gilles, et bonne chance. » Ce qui se passa fut si rapide que je ne me rendis pas compte des choses tout de suite. Gilles m'avait prise dans ses bras et me tenait contre lui, très fort. Ses lèvres cherchèrent les miennes, s'apesantirent. Je résistai d'abord, puis cédai au baiser passionné que je rendis sans plus penser. J'entendis le rire du chauffeur teinter à mes oreilles et la voiture qui démarrait. Puis, rompant l'interminable caresse, Gilles supplia. « Viens, Annie, j'ai le droit d'être heureux. Rien au monde ne compte que toi, ne m'abandonne pas. » J'étais étourdi, sans force, comme désincarné. Lorsqu'il me prit par le bras et m'entraîna, je le suivis. Gilles s'était assis à mes pieds, il embrassait mes mains. « Merci, ma belle chérie, tu ne sais pas le cadeau que tu m'offres. Maintenant, il me semble que j'ai vaincu la vie. J'en reviendrai, j'en suis sûr. Tout est changé à partir de la minute où tu consens m'aimer un peu. » J'étais bien, je n'avais plus envie de partir. Lorsqu'il se pencha sur moi, éperdu d'amour, j'ouvris mes bras pour le recevoir. Il s'était endormi comme on plonge, les deux bras levés au-dessus de sa tête, le corps tendu, mais sur ses lèvres un merveilleux sourire errait encore. Une aube violette glissait comme une buée sur mon martre endormi. Il était temps de repartir. Je mis ma fourrure, arrangeai mes cheveux, et une dernière fois contemplai Gilles. « Sois heureux, » murmurai-je, en caressant ses cheveux. Puis je me glissai dans le couloir, descendis furtivement l'escalier et me retrouvai dehors. Je marchai un moment. Au coin d'une rue, un taxi en maraude stoppa et je montai. Un quart d'heure plus tard, j'étais de retour chez moi. Au moment de payer, je m'aperçus que je n'avais plus mon sac à main. Où l'avais-je égaré? Dans un cabaret? Chez Gilles? Impossible de m'en souvenir. J'ai envie de retourner, mais il était trop tard, et je ne savais même pas l'adresse de l'hôtel où il habitait. Dans l'obscurité, je n'avais rien vu. Je pris dans la poche de ma cape la monnaie qui s'y trouvait toujours et réglai la course. Puis, sans faire de bruit, je rejoignis ma chambre. Jacques n'était pas rentré, heureusement. Dans la salle de bain, je pris une douche froide et me frottai rudement comme pour effacer toutes les traces de cette nuit folle. Enfin, je me couchai et m'endormis tout de suite. Lorsque j'ouvris les yeux, je n'avais aucune idée de l'heure qu'il pouvait être. Mon mari me souriait. Sentant passer, la belle au bois dormant s'éveille, dit-il joyeusement. Est-ce vous le prince charmant? Questionnai-je encore pleine de sommeil. Bien sûr. Qui d'autre pourrait être à votre chevet, jolie dame? Brutalement, à cette question, me revint le souvenir de ma nuit folle, de ces heures pourtant exquises, où j'avais oublié totalement qui j'étais. Je me redressai, très pâle. Qui d'autre? Oh Dieu, qu'avais-je fait? J'avais perdu le droit de jouer ingénument et de rire avec mon mari. Désormais, tous mes mots seraient des mensonges, puisque j'avais trahi Jacques. Et pourtant, je l'aimais. Je n'avais jamais aimé que lui. Qu'as-tu? Tu me sembles si bizarre ce matin, chérie. Sans répondre à sa question, je l'entourai de mes bras et cachai mon visage contre son cou. Jacques, aime-moi. Aime-moi, quoi qu'il arrive. Ses mains doucement caressèrent mes cheveux. Avec des mots apaisants, il tenta de consoler ma grande peine. « Là, là, calme-toi. Tu sais bien que moi, je t'aimerai toujours. Mais toi ?»« Je te jure que je t'aime, Jacques, que toi seul existes au monde, que je donnerai ma vie avec joie pour sauver la tienne. » « Il n'en est pas question, heureusement. Pour le moment, je te demande une seule chose, de ne pas être aussi nerveuse. Tu as veillé tard, tu es lasse, mais ce n'est rien. Demain, tu retrouveras ton sourire. » J'avais honte de sa discrétion et de sa tendresse. Je ne méritais plus tout cela. Oh, pouvoir effacer cette nuit et le souvenir du pauvre garçon dont j'avais eu pitié. Mais la pitié n'était qu'un piège tendu à l'inconstance féminine. Se donner à un homme par pitié n'est pas une excuse. je le sentais maintenant, au plus profond de moi-même. Pour le moment, je n'avais qu'un devoir, cacher ma faute à Jacques et l'entourer de tant de tendresse qu'il peut me pardonner un jour, beaucoup plus tard, lorsque je lui confierai tout. Car je ne voulais pas mourir avec mon secret. Mais il ne devait pas savoir maintenant. Il me semblait que nous nous connaissions à peine, que notre mariage datait de la veille. Nous étions trop charnellement épris l'un de l'autre pour qu'un fantôme vînt s'interposer entre nous. Dans 10 ans, dans 20 ans, je pourrais parler. En attendant, il fallait feindre, mentir, usurper un amour que je ne méritais plus. Je me levai d'un bond. Que suis-je donc sentimental? Pardonne-moi, Jacques, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais contrarié parce que hier les Jourdans ne sont pas venus. Ma soirée était gâchée à les attendre. Veux-tu que nous retournions ce soir au Cacatoès? Je protestai avec vivacité. Non, non, c'est une boîte effroyablement triste, avec des gens vulgaires. Et l'orchestre est si bruyant que j'en ai encore mal à la tête, rien que d'y penser.
Bien, bien. Nous resterons chez nous, bien au chaud, comme de vieux époux que nous sommes. C'est ce que tu veux?
Oui, chérie, tu as deviné. Tout en parlant, je m'approchai de ma table de maquillage. D'un geste machinal, je rangeai mes objets de toilette. Mon rouge à lèvres manquait. C'est vrai, il était dans mon sac de lamé que je portais la veille. Le sac, où était-il? Je fermai les yeux pour mieux retrouver mes souvenirs. Je l'avais au Cacatoès, puis dans cette boîte à matelots où nous étions allés ensuite. En sortant du dernier cabaret de nuit, je le portais à la main. Je me souvins même qu'il faillit tomber au moment où Gilles me prit dans ses bras. Alors il était dans l'hôtel où nous avions échoué. Je le revis soudain glisser de mes mains sur le tapis. Voyons, il fallait, sans m'énerver, que j'en récapitule le contenu. Une boîte à poudre, le bâton de rouge, un porte-monnaie de cuir, dans la poche intérieure quelques billets de 1000, et puis 2 lettres à mon nom. Ainsi Gilles pouvait retrouver ma trace. Qu'allait-il faire? Je le devinais chevaleresque. Il ne ferait rien sans doute pour que mon mari sache la vérité. Il n'en avait pas le droit, même s'il m'aimait. Surtout s'il m'aimait. Peut-être même le sac était-il resté au même endroit. Dans ce cas, il fallait le retrouver pour éviter qu'on le rapporte chez moi. Je pris mon peigne et nerveusement démêlai mes cheveux. Dans le miroir, j'aperçus le visage de Jacques, très grave, tendu vers le mien avec angoisse. Je lui souris. Il me dit alors « Je voudrais aller quelques jours à la campagne avec toi. Oh oui, c'est une excellente idée. Partons demain. Je peux m'arranger à l'hôpital. Pas demain, c'est trop tôt. Mais qu'as-tu donc de si important à faire ? » s'étonna-t-il. Je me levai, mis mes mains sur ses épaules et le regardant bien en face. C'est une histoire de robe et d'essayage, naturellement, qui me retient ici. En réalité, je pensais à rechercher le fameux sac, témoin de ma faute. Il fallait à tout prix faire disparaître les traces de mon passage dans cet hôtel de Montmartre. Jusqu'au lendemain, je n'aurais sans doute pas le temps de retrouver l'immeuble. « Je te donne 3 jours, » trancha mon mari. « Parfait, cela suffit. Je bousculerai le couturier, je terroriserai la lingère et kidnapperai le fourreur si c'est nécessaire. Où comptes-tu m'emmener ? À Saint-Tropez. Les fins d'hiver y sont délicieuses. » Je l'embrassai avec toute la passion qui de mon cœur montait à mes lèvres. « Je suis si content de t'avoir à moi pendant plusieurs jours. C'est affreux d'être la femme d'un chirurgien. » Mes paroles sonnaient faux. Pourtant, je le jure, j'étais sincère. Je ne comprenais pas quelle folie m'avait poussé dans les bras d'un autre homme. Je me reniais. Mais cela n'effaçait pas la brûlure de honte qui m'enveloppait au souvenir de ce qui s'était passé cette nuit. Le soir, quand je fus dans les bras de mon mari, j'eus peur un instant de ne plus retrouver la paix merveilleuse qui me baignait toujours. J'eus un mouvement de recul quand son corps s'approcha du mien. Mais ses douces mains m'attirèrent et je fus sienne dans la joie. Des pleurs montèrent à mes yeux, pleurs de désespoir, pleurs d'amour, pleurs de reconnaissance envers la vie qui ne punit pas la faiblesse féminine. Tout le jour, Jacques avait été présent, et je n'avais pu m'absenter. Le lendemain, à 10 heures, j'étais à Montmartre. Parti du Cacatoès, je tentai de refaire le chemin parcouru avec Gilles. Jusqu'au dernier cabaret de nuit, ce fut facile. Mais comment retrouver, dans cette rue voisine de la Place Blanche, où mains hôtels étaient accolés l'un à l'autre, celui qui avait abrité notre furtive idylle? Je dus convenir que cela m'était impossible. Une seule solution me restait, entrer dans chacun d'eux à tour de rôle. Rouge, intimidée, furieuse contre moi, je pénétrai donc dans le premier. Un garçon d'étage insolent me reçut entre deux portes. « Quoi, qu'est-ce que c'est ? » Je crois avoir laissé mon sac la nuit dernière chez un lieutenant à qui j'ai rendu visite. Il cligna de l'œil.
Oui, je comprends. Seulement des lieutenants et des belles gosses, ils n'en passent pas mal chez nous. Pas vu de sac, en tout cas. Et puis, son ton se durcit. Pas d'histoire ici, c'est une maison sérieuse, hein?
Je repartis, sans oser insister. La même scène se renouvela, plus ou moins polie, dans les autres hôtels. J'étais à bout de nerfs, épuisé. Ne sachant plus que faire, car j'avais mené mon enquête dans toutes les maisons sur la droite, la seule chose dont j'avais souvenir était le côté. J'entrai dans un petit bistrot, commandai une boisson chaude et tentai de rassembler mes idées. Voyons, si Gilles avait retrouvé mon sac, il me l'aurait déjà fait parvenir, puisqu'il partait dans la journée. Et je n'avais rien reçu. C'est qu'il ne l'avait pas trouvé. J'étais donc à la merci de quiconque le découvrirait dans l'hôtel. De deux choses l'une, où il s'agissait de quelqu'un de malhonnête, qu'il garderait, sans plus de façon, comme cette solution me paraissait merveilleuse, où on me le rapporterait. Les domestiques seraient au courant, et Jacques aussi. Ce serait la fin de notre amour. Jacques ne croirait plus en moi. La vie commune serait impossible. Nous serions obligés de nous séparer. Il fallait chercher encore, gravir encore quelques marches de ce calvaire où ma folie d'un soir m'avait engagé. Tout à coup, je tressaillis. Dans l'endroit où je me trouvais, sur la gauche, j'aperçus, au deuxième étage d'un hôtel en face, une fenêtre dont un des carreaux était bleu. Alors je me souvins. C'était là la chambre de Gilles. J'avais remarqué l'étrange clarté qui venait de la vitre teintée. C'était d'ailleurs le premier hôtel où je m'étais adressé, celui où le garçon m'avait si mal reçu. Il fallait insister cette fois, puisque j'étais sûr d'avoir retrouvé l'endroit. Je payais, traversais la rue, et me trouvais dans le bureau devant un jeune homme aux cheveux cosmétiqués, aux chaussures brillantes, habillé avec un goût trop parfait pour n'être pas voyant. Je lui répétais ma question avec plus d'autorité qu'avant. « Ah oui, je sais, vous êtes déjà venu tout à l'heure. La patronne m'a mise au courant, me dit-il. Vous y tenez beaucoup à ce sac ?»«
Oui. »«
Du pèse, enfin, de l'argent. Ce n'est pas cela. Bon, j'y suis. La petite dame s'est compromise, elle a un mari. »
« Eh bien, que donneriez-vous pour retrouver cette petite babiole ?»«
N'importe quoi, »
dis-je imprudemment. Il émit un sifflement ravi.
« Comme ça, nous pourrons nous entendre. Je suis un bon type. Je vais vous tirer d'affaire. Comptez sur Max.
Max, c'est moi. »«
Alors, vous l'avez ? Oh, donnez-le-moi tout de suite. Je suis affreusement pressé.
Minute.
Parlons d'abord business. Combien ? 5 000. 10. Entendu. »
Je fouillai dans mon portefeuille et en sortis les billets. Max de Montmartre me regardait calmement. Il avança la main, prit l'argent, le rangea dans sa poche après l'avoir compté.
« Alors ?» demandai-je avec impatience.
« Alors le sac, je l'ai trouvé, mais je l'ai donné à une petite amie. Il faut que je le lui reprenne, revenez ce soir.
Mais de quoi ?»«
Si vous n'avez pas confiance, faut le dire. Je n'ai pas l'habitude de me faire blouser par les filles. » Les yeux de velours noir s'étaient durcis. J'eus peur, je cédais lâchement.
« Bien, ce soir je serai là vers 7 heures, ça vous convient ?»«
Ok. »
À déjeuner, mon mari remarqua mon air gai, il en fut heureux. « Fini les idées noires, chérie ?» me demanda-t-il.
« Oui, je me sens mieux aujourd'hui. J'étais nerveuse hier. »
Il leva les bras au ciel. « Les femmes et les nerfs, deux mots qui devraient rimer. »
« Je suis heureux, en tout cas, que ce soit terminé. J'aime tant ton calme, ta douceur. J'aime tant l'atmosphère que tu dégages. »
Dans l'après-midi, je devais visiter une exposition, justement avec Colette Jourdan, qui s'était excusée de n'avoir pu venir le fameux soir. Je fus incapable de regarder la moindre toile. Une sourde angoisse s'était saisie de moi. Pourtant, tout serait arrangé dans quelques heures et Jacques ne saurait jamais rien de mon remords. À 7 heures exactement, j'étais dans le sordide hôtel qui avait été le cadre de notre amour coupable. Max était absent. Une femme blonde, grasse, trop fardée, me l'annonça calmement.
« Mais j'ai rendez-vous avec lui, il va sûrement venir. »
Elle se moqua méchamment.
« Les rendez-vous avec les souris, ils s'en contrefout. »
« Ce n'est pas ce que vous croyez, il s'agit d'une affaire.
Pour qui ?
Pour vous ou pour lui ? »
questionna-t-elle. « Pour tous les deux. »
« Si c'en était vraiment une d'affaires, il serait là. »
« C'est que le truc ne l'intéresse pas, ou qu'il s'est sucré déjà. »
J'attendis une heure, assistant malgré moi au va-et-vient des couples vite formés et vite défaits, qui se croisaient dans l'escalier étroit. Moi aussi, j'étais entré ici au bras d'un homme. Enfin, je dus me décider à repartir. On m'attendait chez moi pour le dîner et mon absence inhabituelle aurait inquiété Jacques. J'arrivais avant lui et j'étais en robe du soir lorsqu'il rentra. Il remarqua ma toilette, m'en félicita et demanda « Pourquoi ne mets-tu pas ta dernière robe, couleur de nuit ? Elle ne me plaît plus. » Pour rien au monde, je n'aurais remis devant Jacques cette robe qui me rappelait ma honte. Mon mari s'étonna un peu de ma réponse.
Il m'a fallu 7 ans pour apprendre que ma femme était capricieuse,
se moqua-t-il gentiment.
Les romanciers ont bien raison d'écrire qu'elle vous réserve les pires surprises.
Je pâlis.
S'il le remarqua, il ne dit rien cependant, et peu à peu je redevins maîtresse de moi.
Je passai une nuit terrible, les yeux grands ouverts, à côté de lui. Son bras, comme d'habitude, m'enlaçait fortement. Mais mon mari ne réussit pas à m'entraîner dans le bienfaisant royaume du sommeil. Le matin, vers 10 heures, je courus chez Max.
« Il dort, m'expliqua-t-on. Impossible de le réveiller, vous pensez?
Il en ferait un foin. » J'attendis dans le bistrot d'en face. À 11h30, lorsque je revins, il était sorti. C'était clair, il ne voulait pas me voir, et bien tant pis.
Tant mieux, peut-être, qu'il garde le sac. Je n'en avais pas besoin.
Je lui laissai un mot lui disant qu'il pouvait le conserver. Et je rentrai chez moi, soulagé. La sordide histoire était maintenant enterrée. Une nouvelle vie allait recommencer.
2 jours plus tard, nous partions pour Saint-Tropez. Sur le vieux port, irréel comme un décor d'opéra comique, nous fîmes, Jacques et moi, un nouveau voyage de noces. Le bonheur irradiait mon visage, m'embellissait, rendait harmonieux chacun de mes gestes. Jacques semblait grisé lui aussi. « Je suis si heureuse que je voudrais que notre vie s'arrête à cet instant, » lui dis-je, la veille de notre départ.
« Je ne tiens pas du tout à mourir, » protesta-t-il en riant. D'autant plus que nous n'avons rien qui puisse ternir ce bonheur. J'ai confiance au destin, à la vie, en toi. La guerre même ne peut nous séparer, puisque mon âge me permet d'accomplir mon devoir sans te quitter. Tu vois,
ajouta-t-il en riant, l'avantage d'avoir un vieil époux.
Insouciante, je ris à la boutade.
J'avais oublié Gilles. Il s'agissait d'un cauchemar déjà effacé.
Désormais, j'étais décidé à me consacrer à Jacques. Aucun homme n'entrerait plus dans mon existence. Autour de moi, un mur de diamants s'était élevé qui m'éloigna jamais des autres et des plaisirs de rencontre. 2 jours après notre retour dans la capitale, nous invitâmes quelques amis à une soirée. J'étais à la fenêtre, derrière la vitre froide, un peu avant l'heure de la réception, quand j'aperçus, grâce au réverbère qui est juste devant notre maison, une silhouette qui se glissait furtivement. Malgré le chapeau enfoncé sur la tête et qui lui cachait presque un œil, je reconnus Max. Une douleur fulgurante me traversa. Je portais la main à mon cœur. Ainsi, je m'étais réjoui trop tôt, ce n'était pas fini. Ma faute s'accrochait à moi comme un chien hargneux. L'homme leva son visage vers moi, me fit un signe. Ses doigts indiquèrent le chiffre 5. Je compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous, le lendemain, à 5 heures. J'acquiesçai. Déjà, la première voiture stoppée au bord du trottoir. Max disparut dans la nuit. Tant bien que mal, je fis les honneurs de la soirée. On me trouva bonne mine, on m'envia. J'agissais comme une somnambule, un sourire crispé sur mes lèvres. Jacques ne me quittait pas des yeux. Quand les derniers échos de la fête se furent éteints, il me prit par les épaules et m'interrogea gravement. « Qu'y a-t-il, Annie? Je sens que quelque chose te tourmente. Il ne faut rien me cacher. Même si tu as quelque chose à te reprocher, sois confiante, je t'aiderai. Je te pardonnerai peut-être. » L'occasion était belle de me confesser. Je n'eus cependant pas le courage de la saisir. Je me contentais de rire très fort en me moquant des drames qu'il construisait dans sa tête. Il insista. « Alors pourquoi cette nervosité? Je t'ai observé toute la soirée, autant en médecin qu'en amant, plus encore qu'en mari. Tu as une gaieté factice qui n'est pas la tienne. Tu te forces, tu es crispé. Qu'y a-t-il, Annie? Je voudrais te rappeler ceci. Un couple ne peut pas vivre dans le mensonge. » La tendresse immense contenue dans la voix de Jacques, ses yeux posés sur les miens. Rien ne put entamer ma réserve. C'est avec une parfaite désinvolture que je répondis, souriante. « Il n'en est pas question, mon chéri. Aucune de mes pensées ne t'est cachée. » Il embrassa mes yeux et m'entraîna dans notre chambre. À l'heure dite, j'arrivai au rendez-vous. Cette fois, Max m'attendait. Il m'enveloppa d'un regard qui me fit rougir, un regard de marchand de bestiaux. « Avez-vous le sac ? » demandai-je. « Voulez-vous me le rendre ? Vous savez que je vous le donne volontiers. » « Comme ça tombe. Justement, mon ami a décidé de le conserver. Mais moi, je voudrais un petit souvenir de vous. Un souvenir, je ne comprends pas. Une bague, un porte-cigarette, n'importe quoi que je porterai sur moi en me disant « Cela vient de ma petite amie du boulevard Suchet. Mais je n'ai rien. Oh, ne vous inquiétez pas. Je choisirai moi-même. J'ai beaucoup de goût. Donnez-moi l'argent, ça suffira. C'est du chantage.
ne faites pas la dégoûter. Quand vous couchez avec des petits lieutenants et que votre mari n'en sait rien, un bon toubib, votre mari, à ce qu'il paraît. Si jamais j'ai quelque chose en trop, j'irai me le faire couper chez lui. Il n'en est pas moins trompé. L'argent que vous allez m'offrir sera votre punition. Vous en méritez une. Peut-être, mais je ne vous reconnais pas le droit de me l'infliger. Mais si, je suis l'instrument du destin. Si je vous donne ce que vous me demandez, me laisserez-vous tranquille ensuite, naturellement. Alors combien? Le double de la première fois. C'est beaucoup. Je dispose de sommes assez faibles. Je ne suis pas riche. Bois. Une belle bombe se débrouille toujours. Je suis bien tranquille. Vous serez là demain avec le fric. Alors c'est moi qui irai chez vous. J'aimerais bien faire la connaissance du docteur Linard. J'ai de la conversation. Je suis sûr que j'arriverai à l'intéresser. Il me fallait céder, encore une fois. J'étais entre ses mains. Bien, je viendrai. Mais je vous jure que vous n'obtiendrez rien d'autre de moi. Ok, ça me suffira. Maintenant je file. J'ai un rendez-vous. Il est très demandé, Max. Dans le taxi qui m'emportait, j'eus une nausée de dégoût. Tout cela dépassait en horreur ce que j'avais pu imaginer. Je dus vendre un bijou de ma mère que je ne portais jamais pour me libérer de Max. Quand je lui apportai la somme convenue, il fut obséquieux et moqueur. « Maintenant, adieu, lui dis-je, nous ne nous reverrons jamais. »« Qui sait, Paris est si petit, ricana-t-il. » Ainsi, une menace continuait à être suspendue sur moi. C'en était fait de ma quiétude. Pourtant, le printemps, le doux printemps de Paris, léger et pur comme un souffle d'enfant, commençait à s'infiltrer dans la ville. J'aurais dû être heureuse. Plus d'un mois se passa. Peu à peu, je reprenais confiance. Max avait dû comprendre qu'il n'obtiendrait plus rien de moi. La guerre entrait dans une phase nouvelle. Les bombardements se succédaient. Cette fois, on se battait âprement. Mon mari semblait fort affecté par les nouvelles. Les premiers blessés arrivaient dans son hôpital. Il rentrait soucieux et n'arrivait à se délasser que près de moi. Jamais je ne l'avais tant aimé. Certains après-midi, la femme de chambre entra dans le petit salon où je me tenais d'habitude. J'étais en train d'écrire des lettres. « Un monsieur vous demande, » me dit-elle. « Bien, comment s'appelle-t-il » Il refuse de dire son nom. Je sais seulement qu'il s'agit d'un sac. D'un sac, oh mon Dieu. « Max, chez moi, était-ce possible ?» Dites-lui qu'il m'est impossible de le recevoir. « Bien, madame. » Elle sortit et revint quelques instants plus tard. Elle paraissait très gênée. Il insiste, il dit que... « Parlez. Il dit qu'il vaut mieux pour vous que vous le rencontriez. » J'eus peur d'un scandale. Je cédais. Que faire d'autre? Il entra, sûr de lui, avec sa jolie figure de guape et sa souplesse d'animal sauvage. « Qui vous a permis ?» commençai-je, d'une voix irritée. « Doucement. Je n'ai pas compris quand je fais gentiment une visite à une amie, car vous êtes une amie. Une victime, vous voulez dire. Quel grand mot pour 30 sacs que vous m'avez donnés. À propos de ça, justement, j'ai réussi à le récupérer, le vôtre. Je tendis la main, il se mit alors à rire. Pas si vite, je ne l'ai pas sur moi. J'eus brusquement la certitude qu'il ne l'avait nulle part, qu'il ne l'avait jamais eu, et que j'étais un jouet entre ses mains. Je voulus en avoir le cœur net. Si vous voulez que je vous croie, donnez-moi une preuve. Volontiers, laquelle? Remettez-moi demain la broche en rubis qui était dans le portefeuille. La broche en rubis? Très bien, vous l'aurez, mais avant... Je bondis. « Menteur, il n'y a ni broche ni portefeuille, ce n'est pas vous qui avez le sac. » Il ne se démonta pas. « Vous y avez mis le temps. »« Mais enfin, vous avez compris. D'ailleurs, il y avait un mot pour vous à l'hôtel, si vous voulez tout savoir. »« Et vous avez le toupet ?» coupai-je avec violence. Mais Max me fit taire avec un geste vulgaire. « Pas si fort, ma jolie. N'ameutez pas vos domestiques, vous qui avez si peur du scandale. Laissez-moi vous expliquer. » Votre gigolo avait laissé à la patronne de l'hôtel un aimable poulet pour vous, avec le fric qui était dans votre sac. Donnez-moi ce mot. Voyons, pour qui me prenez-vous? Je n'ai rien voulu garder de compromettant pour vous, je l'ai déchiré tout de suite. Seulement, je peux vous le réciter. Le billet doux, je le connais par cœur. Ma fée jolie, merci pour le grand bonheur que vous m'avez donné et que j'emporte comme un talisman précieux. Vous avez laissé votre sac ici et probablement vous vous en inquiéterez. Je le garde, chérie. Comme le seul souvenir qui me reste de vous, puisque je ne vous reverrai jamais. J'ai brûlé les lettres qu'il contenait sans même lire votre nom. Vous pouvez faire confiance à ma loyauté. Je pars heureux, même si je ne dois pas revenir. Je vous serre encore sur mon cœur. Gilles. Gentil, hein? Bien tourné? Continua l'infâme personnage. Et discret avec ça, enveloppe blanche sans nom, et les instructions étaient de le donner à la dame qui était venue au 5. Je vous ai entendu parler avec le garçon, et j'ai fait mon enquête auprès de la patronne, en lui disant que j'étais envoyé par vous. C'est à elle-même que la lettre avait été remise. Il n'a fait aucune difficulté pour me la donner. Dans ces boîtes-là, ça arrive souvent que les gars laissent des billets doux pour leur conquête, et qu'elle les envoie chercher par un copain. Je vous dis ça parce que dans votre monde, des lettres de ce genre, ça se remet en main propre. À Montmartre, on est moins compliqué. J'ai été pétrifié. Ainsi, tout était simple. Malgré les vapeurs de l'alcool, ma mémoire était fidèle qui me rappelait l'instant où le sac avait glissé sur le tapis. Gilles n'avait pas pu ne pas le voir, et il avait fait le nécessaire pour que disparaisse toute trace de mon passage dans ce lieu dangereux. Son billet ne portait aucun nom. Sans mon imprudente démarche, nul n'aurait rien su de la sordide aventure. Et je me reprochais amèrement de n'avoir pas eu tout de suite l'idée de parler à Max du contenu du sac. Il se serait immédiatement coupé, comme il l'avait fait tout à l'heure. Mais une femme affolée, une femme qui se sait coupable, est-elle capable de sang-froid? Froidement, je dis à Max, qui me dévisageait avec un insupportable ricanement. « Eh bien, tout est réglé maintenant. Vous avez fait une gentille opération financière avec le contenu de l'enveloppe, et ce que je vous ai remis, cette histoire est terminée. Minute! Ce serait trop facile. Une bêtise de ce genre, ça se paye. C'est vous qui vous êtes mise dans mes mains, bêtement. Je vous ai suivi pour connaître votre nom et votre adresse. Maintenant, j'en sais assez pour te dire au bon docteur. Inutile, je parlerai avant vous. Je vous en défie. Vous tenez trop à votre existence pépère. Tout, plutôt que de vous subir. » Il s'avança tout près de moi, me prit par les poignets. « Doucement, doucement, ma jolie gazelle, n'allez pas me dire surtout que Max vous dégoûte, hein, à vomir. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, quand on a goûté à Max, on en redemande, et d'ailleurs, quand Max a jeté son dévolu sur une fille, il l'apprend, quoi qu'elle puisse raconter. » Tandis que je le regardais, horrifié, incapable de bouger, d'appeler, murmurant seulement à mi-voix, « Non, non, pas ça. » Il m'enlaça durement et chuchota à mon oreille. « Dommage, car tu me plais bien, ma petite. » Seulement, t'as besoin d'être un peu dressé et d'apprendre les bonnes manières. Mais ça n'a aucune importance. Max s'est toujours fait obéir. Sa bouche s'écrasa sur la mienne. Je me débattis sauvagement. L'étreinte se resserra. Horrifié, je vis la porte du salon s'entrouvrir. Mon mari apparut une seconde, regarda la scène avec mépris, puis disparut sans que j'aie eu le temps de réagir. Mes forces alors se décuplèrent. Je rejetai Max loin de moi et d'une voix sourde. Partez. Vous n'avez plus rien à faire ici. » Il dut comprendre qu'il s'était passé quelque chose, car il ne protesta point. Je vis son dos s'encadrer dans la porte où quelques instants avant mon mari avait disparu. Je courus dans toutes les pièces, appelant Jacques d'une voix désespérée. Mais je dus me rendre à l'évidence, il n'était plus dans la maison. Je l'attendis pour dîner, je l'attendis toute la nuit. À chaque pas qui résonnait dans la rue, je me levais, le cœur battant follement, prête à tomber à ses genoux, à tout lui dire, à implorer son pardon, à disparaître silencieusement, si tel était son verdict. Le lendemain, je reçus un mot très bref. « Je pars pour le front. Tu es libre. Je te remercie du bonheur que tu m'as porté. Tout était trop beau pour durer. Mais j'ai eu, grâce à toi, ma part de paradis. Sois heureuse avec l'homme que tu aimes. Il ne faut rien regretter, vois-tu. Si je meurs, sache que c'est ton nom que je prononcerai en quittant ce monde. » Je fus longue à retrouver sa trace. Enfin, j'obtins son adresse. Je lui écrivis une longue confession, celle que voilà, et j'attendis. Il ne la lut jamais. On la retrouva sur lui, dans l'enveloppe toujours cachetée, lorsqu'on découvrit son corps sous les décombres de l'hôpital qu'il avait installé en première ligne. Il avait cherché la mort. Il ne pouvait plus vivre après ma trahison. Mais moi, je vis. Et c'est là mon châtiment. Le suicide me paraît trop doux après mon crime. Alors je traîne des jours sans joie et sans amour, et les miroirs me renvoient le visage d'une femme précocement fanée, aux yeux hagards, une femme dangereusement penchée sur l'abîme de la folie. Ainsi s'achève « La trahison ne paie pas » par Nicole Morand.